Bien, ce soir, nous vous saluons, vous qui nous rejoignez sur Internet, que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. 1 Pierre 1, 7. Tressaillez d'allégresse au verset 6 déjà. Quoi que vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire, à l'honneur et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et vous asseoir. L'épreuve de notre foi. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça va s'arrêter? Non. L'épreuve de notre foi, selon les Écritures, c'est une chose tout à fait normale. Il faut jouer avec. La foi, ça ne va pas sans l'épreuve, de notre foi. Et il y a plusieurs raisons à ça. Plusieurs raisons. La première raison, c'est notre croissance personnelle. Dieu n'éprouve pas la foi de ses enfants pour savoir dans quel état elle est ou dans quel état ils sont. Il le sait. Mais il éprouve notre foi afin que cela nous permette de grandir. C'est une des raisons. Aucun chrétien ne peut en réalité progresser si sa foi n'est pas mise à l'épreuve. La seule façon dont la foi puisse grandir, eh bien, c'est justement de faire ses preuves. Alors, on sait que Dieu nous guide dans toute notre croissance et on sait qu'il utilise la méthode de l'épreuve. Il l'utilise, premièrement, pour que son cœur soit comblé. Je vais vous expliquer tout ça. Notre foi manifestée, elle rend gloire à Dieu devant les gens, devant les démons, devant les anges, devant la nature entière. Vous savez que la Bible nous dit que la nature entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Et lorsque nous manifestons notre foi, lorsque nous parlons le langage de la foi, lorsque nous manifestons notre foi, eh bien la terre entière, la nature entière, on ne s'en rend pas toujours bien compte, mais tout cela, nos attitudes glorifient Dieu devant la nature tout entière. Alors, quelles que soient les tribulations, les persécutions, les antagonismes, les problèmes, les machins, tout ça, les ténèbres, quoi que ce soit qui se mette en travers de votre chemin, si vous croyez fermement, alors votre foi rend gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, elle rend gloire au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié. Comment? Par l'épreuve de la foi qui est passée. Pas qui est passée dans le passé, mais qui est passée, qui est surmontée. L'épreuve est passée avec succès. Notre foi met les démons, les grands, les petits, les moyens, en échec. Et ça ferme la bouche de Satan. Lorsqu'ils vont rendre compte au sujet de ce qui se passe et qu'ils sont obligés de dire que nous avons manifesté la foi alors qu'eux essayaient de nous barrer le chemin, ça rend gloire à Dieu, ça ferme la bouche de Satan. Parce qu'il est l'accusateur des frères. Il n'est pas l'accusateur des frères en comité diabolique. Il est l'accusateur des frères devant le trône de Dieu. Et si vous manquez de foi, ben, il peut vous accuser devant le trône de Dieu. Le royaume de l'ennemi est absolument hostile surtout au fait que vous disiez votre foi, surtout au fait que vous manifestiez votre foi. Et ils font preuve de toutes sortes d'ingéniosités pour vous empêcher de parler le langage de la foi, pour vous impressionner afin que vous ne parliez plus le langage de la foi. Parce qu'il sait très bien que si on ne parle plus le langage de la foi, alors nos actes ne vont plus être des actes de foi. Parce que c'est toujours en confessant, quand on confesse, alors évidemment, cela nous verrouille et nous met dans une position où nous pouvons agir. C'est comme ça que ça se passe. En fait, quand la Bible dit que nous devons résister au diable, eh bien c'est comme ça. Quand la Bible nous dit qu'il faut s'approcher de Dieu, c'est comme ça. En confessant les choses avec foi, en disant le langage, en parlant le langage de la foi. Les démons et autres êtres maléfiques ne cessent de nous harceler, ils ont des plans, mais ils ne peuvent le faire que jusqu'au jour où nous leur clouons le bec. Et pour leur clouer le bec, eh bien Dieu leur permet de nous embêter afin d'éprouver notre foi. Et quand notre foi est éprouvée, nous réagissons selon la foi et ça cloue le bec du diable. Et la boucle est bouclée. Quand notre foi est forte, alors on se tourne vers les autres. Alors on commence à aller, à prendre soin des autres, à aider les autres. Pas seulement les aider loin, loin, loin au Burkina ou loin, 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 que sais-je, mais là tout près, le frère, la sœur, à aider, à prendre part à toutes sortes de choses afin que les frères et sœurs soient soulagés. Et c'est seulement quand notre foi est forte, parce que quand notre foi n'est pas forte, eh bien, quand elle n'a pas été éprouvée, on est incapable d'aider les autres, parce qu'on se regarde le nombril, parce qu'on se dit, il faut que je fasse encore des progrès, comme ça, on se sent indigne de l'œuvre de Dieu, et le diable nous accuse, on est là sous une accusation, on est tout troublé, tout timoré, tout. Si notre foi est éprouvée, c'est pour nous montrer à nous-mêmes quelle est notre véritable nature, quelle est notre véritable position. Une foi réelle, mes frères et sœurs, elle est durable. Elle est durable. Regardez par exemple Abraham qui a cru pendant des années, qui n'a pas démordu pendant des années au sujet de la promesse qui lui avait été faite pour un fils. Eh bien, une vraie foi, mise à l'épreuve 77 fois cette fois, croit encore. Croit encore. La vraie foi ne meurt jamais. C'est comme le riz qui ne colle jamais. Ça ne meurt jamais. Jésus est vivant, on le sait. Il a porté le fardeau sur la croix, on le sait. Maintenant, nous avons un joug, c'est vrai, mais il le porte avec nous, on le sait. Il partage tout avec nous, ça veut dire qu'il partage tout avec nous. Nous savons ces choses, nous y croyons. N'empêche que notre foi sera encore mise à l'épreuve. Alors maintenant, c'est ça qui est important. Être victorieux, ça ne veut absolument pas dire être changé. Vous avez lâché prise, vous avez tout remis entre les mains de Dieu, vous avez cru que lui seul est votre victoire, c'est lui votre sainteté, c'est lui votre pureté, c'est lui votre patience, c'est lui votre douceur, c'est lui. Et paf! Vous cognez sur une frangine stupide ou un crétin de frange complètement taré qui vous crache du venin en pleine figure avec amour en plus. Alors, vous dites rien, mais vous sentez l'énervement qui monte, qui monte, qui monte, et la mauvaise humeur qui revient. Alors, vous dites, mais qu'est-ce que ça signifie alors? Je ne suis plus dans la victoire, je ne suis pas dans la victoire, je n'ai pas changé, je ne suis pas victorieux. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Être victorieux, ça ne veut pas dire que vous avez changé. Ne pensez pas que vous vous êtes amélioré parce que vous n'avez pas péché depuis 2 semaines. Ou 3. Quand on est victorieux comme ça, on commence à être fier de ça. Et c'est là que Dieu met notre foi de nouveau à l'épreuve et nous permet même de chuter. Afin de nous faire comprendre qu'il n'y a rien de changé en nous. Rien. Rien. Ça veut dire quoi? Alors Michel, mais c'est quoi? Alors il y a quoi? Depuis que je suis converti, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, supposons, nous avons prié, nous avons remercié Dieu, nous avons cru, et puis voilà, au sujet de la patience. C'est pas que vous avez une nouvelle patience, c'est pas que Jésus est venu vous visser un morceau de patience en vous, pas du tout. Ou une nouvelle pureté. Alors voilà, maintenant, j'ai tout lâché, j'ai remis ça dans les mains de Dieu. Voilà, maintenant, je crois, il est ma pureté. Voilà, maintenant, je suis pur. Ah oui? Vous croyez que Dieu vous a mis une pureté là-dedans, comme ça? Si nous nous considérons comme changés, c'est, nous ne pouvons que tomber. Nous ne pouvons que chuter. Il y a une chose qu'il faut absolument connaître et qui n'est pas prêchée en général, qui n'est pas prêchée. Nous ne pouvons être patients que parce que c'est Jésus notre patience. Nous ne pouvons être purs que parce que c'est Jésus qui vit en nous qui est pur. Nous ne pouvons être saints que parce que c'est Jésus qui est en nous qui est saint. Nous ne pouvons être justes que parce que c'est Jésus qui est en nous qui est juste. Nous ne pouvons être doux que parce que c'est Jésus qui vit en nous qui est doux. Et même si vous avez vaincu longtemps, 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 longtemps après, longtemps, Eh bien, vous êtes toujours pareil. Vous êtes vous-même. Pas changé pour un sou. Michel Jantan sera toujours Michel Jantan. Il faudra vous faire une idée. Dans 30 ans, si Dieu me prête vie, j'espère pas, je serai encore Michel Jantan. Enlevez la grâce. Et Michel Jantan va tout droit en enfer. Enlevez la grâce. Et je vais tout de suite en enfer. Alors, la victoire. Eh bien, la victoire, c'est Jésus. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais rien du tout. C'est son nom qui doit être glorifié. Je suis toujours susceptible de pécher. Je n'ai rien de changé. Écoutez, on va faire le calcul. Paul, plus Pierre, plus Jean, plus Osborne, plus William Branham, plus vous, plus Michel Jantan, moins la grâce, égale une bande de pécheurs, voilà tout. Perdu. Perdu. Pas un pour rattraper l'autre. C'est clair, voilà, c'est bien de le dire comme ça. Au moins comme ça, c'est clair. En dehors de la grâce de Dieu, nous ne sommes pas différents des voleurs, des menteurs, des débauchés, nous sommes pécheurs. En dehors de la grâce, nous sommes tout ça, nous sommes pécheurs. Si la grâce est là, alors nous sommes de nouvelles créatures. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben c'est que Christ vient en nous. C'est tout. Si vous aviez changé tant que ça, mais ça saurait. Si j'avais changé tant que ça, mais ça saurait. Et je dirais, ah, oh, mais tiens, qui c'est celui-là? Oui, il a bien la tête de Michel Jantan, mais dis donc. Si la grâce est là, alors nous sommes de nouvelles créatures. Christ est en nous. Il est notre sainteté, il est notre patience, etc. C'est ça, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pas encore la gloire maintenant. Maintenant, nous sommes toujours dans un corps d'humiliation qui a des poussées, qui a des machins, qui a des trucs, qui a des pulsions, qui est plus ou moins taré dans certains trucs, domaines psycho-machin. Il y en a qui sont plus énervés que d'autres, il y en a qui sont plus paresseux que d'autres, il y en a qui sont plus menteurs que d'autres, il y en a qui sont plus manipulateurs que d'autres, il y en a qui sont plus tout ce que vous voulez. Mais on est comme ça, on est, sans Jésus, on est comme ça. Alors on est soit spirituel, c'est-à-dire on vit par l'esprit, ou alors on vit par la chair, et puis on est toujours nous-mêmes, puis alors voilà. Jésus s'est substitué à nous. C'est une histoire de substitut. Jésus s'est substitué à nous. Il est mort à notre place et maintenant, il s'est encore substitué à nous. Il vit en nous. C'est une histoire de substitution. Mais maintenant, à nous de le croire. Vous allez voir, c'est très important de croire ça. Je pose une question. Qu'est-ce qui est le plus digne de foi? La parole de Dieu ou mes expériences personnelles? La parole de Dieu ou vos expériences personnelles? Votre compréhension des choses de la vie. Quand vous pensez que vous et moi, des gens si faibles, mis en échec, hargneux, vous pouvez vaincre? Je peux vaincre? Non. Si vous croyez ça, c'est que vous ne croyez pas la parole de Dieu. Si vous croyez ça, c'est que vous ne croyez pas ce que la parole de Dieu dit. Posons la question, est-ce que vous avez changé? Non. Bon. Mais est-ce que la parole de Dieu a changé? Non. Alors, puisque ni Jésus et ni la parole de Dieu n'ont changé, comment pouvez-vous dire que vous ne vivez pas dans la victoire? C'est qu'une question de foi. C'est qu'une question de foi. Vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas pu résister, vous n'avez pas su résister, etc., que... Je vais vous raconter une histoire. C'est un petit garçon qui se promène dans la rue, et voilà, qui rencontre un inconnu. Et l'inconnu lui dit, dis donc, toi, je te connais, tu sais pas qui je suis, mais moi je te connais. Tu sais que ta maman, c'est pas ta maman, elle pouvait pas avoir d'enfant, et puis elle est allée à la pharmacie, et puis elle t'a acheté pour 1 franc. Oh, le petit garçon est complètement épouvanté. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors il commence à avoir les larmes aux yeux, puis il court vers sa maman, puis il lui dit, maman, il y a un monsieur qui m'a dit que tu n'es pas ma vraie maman, mais tu m'as acheté dans une pharmacie pour 1 franc. Et la maman lui dit, mieux chérie, c'est faux, je t'ai porté dans mon ventre, et puis voilà, et puis tu es né, je suis vraiment ta maman. Ah bon? Et le lendemain, il rencontre un autre inconnu qui lui dit, ah, salut toi, ah ouais, je te connais bien. Tu sais que ta maman, c'est pas ta maman, hein. Elle pouvait pas avoir d'enfant, elle est allée dans une pharmacie, et puis moi j'étais là, je l'ai vue, quand elle a acheté, pour 1 franc, elle t'a acheté. C'est gentil, hein? Le garçon dit, mais maman, un autre monsieur m'a dit, puis il m'a dit qu'il t'a vu payer. La mère dit, écoute, non et non. Je suis vraiment ta maman et c'est tout. Maintenant, tu me crois. Le surlendemain, rencontre encore deux bonhommes qui lui disent la même chose et qui lui disent, mais dans la pharmacie, il y avait 20 personnes qui sont témoins. On peut les réunir et puis te prouver, 20 témoins quand même, attends. D'un côté, il y a la maman, la parole de la maman, qui n'a pas de témoin. Et de l'autre côté, la parole d'un inconnu, de plusieurs faux témoins. Je vais vous dire, frères et sœurs, la maman n'a pas besoin de soutien de la part de témoins. La maman n'a pas besoin de donner des preuves. Elle doit être crue. Si le fils revient une cinquième, une sixième fois, redemander à sa mère, est-ce que c'est vrai que tu m'as acheté pour un franc à la pharmacie, la mère va dire finalement, tu es dingo, mon fils. Tu es malade, t'as un problème, t'es fou. T'es un idiot. Voilà ce que sont les vierges folles. C'est quoi? Elles sont idiotes parce qu'elles croient plus ce que témoigne leur sens, les autres, les démons, l'expérience, elle croyait plus ça que Dieu, que la parole de Dieu. La mise à l'épreuve de notre foi nous montre où nous en sommes. Ne croyez pas vos preuves, les preuves qu'on vous a données. J'ai la preuve que j'ai pas changé. Ne croyez pas les mensonges. Si le fils avait répondu à l'inconnu, non, moi je sais que ma mère ne m'a pas menti, elle est digne de confiance, eh bien l'ennemi aurait été le bec cloué, et la maman aurait été glorifiée, mais là elle est humiliée à force. Alors, quelle différence y a-t-il entre le fils et vous, le fils de l'histoire et vous? Vous voyez, avoir la foi, c'est croire ce que Dieu dit contre toute évidence. Et une foi éprouvée est cette sorte de foi qui réjouit le cœur de Dieu et cloue le bec du démon et vous honore, parce que c'est honorable d'être un croyant. Quand vous rencontrerez l'inconnu, l'épreuve, ne rentrez plus à la maison en pleurnichant. Ah, vraiment, c'est terrible quand je pense... Ah oui, moi ça fait quoi? J'ai fêté mes 38 ans de conversion là l'autre jour. Ah, voilà que je me suis encore mis en colère cet après-midi. Mais vraiment, alors, j'ai pas changé. Non, j'ai pas changé. Non, j'ai pas changé. Ne rentrez pas à la maison pleurnichant. Affrontez-le. Affirmez la parole de Dieu. Choisissez une fois pour toutes quelle parole vous voulez croire. Amen. C'est ça être victorieux. C'est ça, avoir la foi. La foi, ce n'est pas de déplacer les montagnes, de guérir les malades et tout ça. La plus grande foi, c'est de croire ce que Dieu dit, le dire, et puis de laisser le Saint-Esprit faire. Amen. Merci Jésus pour cette parole. Veuille nous bénir, nous encourager et nous tenir toujours fermes dans la foi, que nous sachions toujours où nous en sommes et qu'au travers des épreuves, nous puissions voir que tu grandis en nous et que nous diminuons. Merci Jésus. Amen. Amen.